Bien, alors j'ai l'honneur de présider cette séance du matin, après cette première journée très dense, très intense, très forte que nous avons suivie hier. Et je vais donc présenter d'abord mon voisin, Philippe Roussin, qui est directeur de recherche au CNRS. Je vais peut-être attendre un peu, non? Oui, je vais peut-être attendre un peu. À Aix, il est d'usage d'attendre un quart d'heure, ça s'appelle le quart d'heure aixois. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui varie selon les villes. Ça peut être le quart d'heure parisien ou je ne sais pas. Mais je ne vais pas attendre un quart d'heure quand même. Non. La cloche est plus impérative. Donc Philippe Roussin, qui est directeur de recherche au CNRS, qui a écrit un gros livre sur Céline, intitulé « Misère de la littérature, terreur de l'histoire ». Céline et la littérature contemporaine, qui a un travail en cours sur littérature et démocratie, et qui va faire paraître un livre qu'il a co-dirigé avec Esteban Bourg, Denis Rioux, et qui s'intitule « Réévaluer les avant-gardes, hommage à Rainer Röchlitz ». Voilà, donc sa communication s'intitule « Le pouvoir selon Antoine Volodine ».
Merci, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque du vivant de l'auteur, comme dirait Jean-Benoît Puech. Alors, les remarques qui vont faire cette communication ont un caractère expérimental, inconclusif, hasardé, ne serait-ce que parce que ma connaissance des textes est inégale et que je ferai référence à certains d'entre eux plutôt qu'à d'autres. Ces remarques vont concerner essentiellement le terrain des ressemblances et des différences entre le contemporain et le moderne chez Volodine. Certaines feront écho à la communication de Sylvie Servoise hier. Et je dois préciser effectivement, comme l'a dit Joël, que ces réflexions font partie d'un programme de recherche plus vaste qui est en cours sur les questions des rapports entre la littérature et la démocratie, de la place de la littérature dans la démocratie, de la part que la littérature prend à la constitution d'un espace public, de la singularisation des discours qu'elle propose et de la manière dont elle impose comme discours public des discours privés. Et enfin, du rapport qu'elle entretient avec ce que Searle appelle l'institution linguistique et sociale de la réalité. En 2007, comme il a été rappelé hier, la revue Europe a assemblé en un même numéro un dossier consacré à Maurice Blanchot, qui était dirigé par Evelyne Grossman, et un dossier consacré à Antoine Volodine, coordonné par Frédéric Detu et Anne Roche. Et le numéro comprenait également une longue étude de Marc Weinstein, intitulée « Le monde et l'immonde, la dème aristocratie de l'être selon Franz Kafka ». Alors, ce rapprochement éditorial arbitraire, je dirais d'un point de vue intellectuel et littéraire, me fournira le point de départ de cette communication. Donc, je ne vais pas parler immédiatement de Volodine, d'Antoine Volodine, je vais y venir. La littérature a longtemps été associée à la Révolution. Cette association de la littérature et de la Révolution se trouve présente dans une grande partie de la critique française de l'après-guerre. Elle se rencontre, comme on le sait, aussi bien chez Blanchot que chez Barthes. Que faut-il comprendre par cette association? Barthes distingue l'écriture de l'idéologie, l'association de la littérature et de la révolution lui permet de désigner dans la littérature ce qui est hors doxa, ce qui fait que la littérature a relativement au discours de l'ordinaire une fonction critique. La littérature est dans le présent l'image d'une utopie future, c'est-à-dire cette réconciliation des langages divisés dont la société présente offre le spectacle. Ce qu'il a développé, notamment dans la division des langages. Donc, un texte de 73. Donc, la littérature est une utopie du langage. Cette utopie n'est ni une uchronie, ni pas plus qu'elle ne renvoie à une autonomie. Elle est toujours référée au même moment fondateur et mythique de l'histoire collective. Ce moment où la parole, devenant et se faisant action, a une valeur, une dimension et donc une importance véritablement pragmatique. Il n'est pas dit Barthes d'écriture qui ne soit révolutionnaire. Bon, je vais rappeler des textes célèbres maintenant. En 49, dans La part du feu, Blanchot a identifié pour toute une partie de la critique de l'après-guerre l'écrivain à la révolution et à la terreur. Je cite « L'action révolutionnaire est en tout point analogue à l'action telle que l'incarne la littérature. L'action révolutionnaire se déchaîne avec la même puissance et la même facilité que l'écrivain qui, pour changer le monde, n'a besoin que d'aligner quelques mots. L'écrivain se reconnaît dans la révolution, elle l'attire parce qu'elle est le temps où la littérature se fait histoire, elle est sa vérité. Tout écrivain qui, par le fait même d'écrire, n'est pas conduit à penser « je suis la révolution », en réalité n'écrit pas. » En 1793, il y a un homme qui s'identifie parfaitement avec la révolution et la terreur, c'est un aristocrate. Sade est l'écrivain par excellence, il en réunit toutes les contradictions. Perpétuellement enfermé et absolument libre, rien de plus qu'un écrivain, et il figure la vie élevée jusqu'à la passion devenue cruauté et folie. La littérature se regarde dans la révolution, elle s'y justifie, et si on l'a appelée terreur, c'est qu'elle a bien pour idéal ce moment historique. Fin de citation. Donc ce sont des pages célèbres, je vais vous rappeler des pages célèbres pendant quelques minutes, de La littérature et le droit à la mort, qui est le dernier chapitre de La part du feu. Donc la révolution et la terreur sont, pour Blanchot, une scène primitive de la littérature. Comme vous le savez par ailleurs, La part du feu est la réponse de Blanchot à la théorie de l'engagement que Sartre formule dans « Qu'est-ce que la littérature ?» Qu'est-ce que la littérature présente une autre scène primitive de la littérature. Ce n'est pas celle de la révolution et de la terreur, c'est celle de la guerre récente et de la torture. D'où Sartre déduit sa théorie de la littérature engagée. Donc je rappelle ces pages également célèbres. Mais c'est le matin, donc on a le droit de rappeler des pages célèbres. Ce qui fait, je crois, l'originalité de notre position, c'est que la guerre et l'occupation, en nous précipitant dans un monde en fusion, nous ont fait par force redécouvrir l'absolu au sein de la relativité même. Pour nos prédécesseurs, la règle du jeu était de sauver tout le monde parce que la douleur rachète, parce que nul n'est méchant volontairement, parce qu'on ne peut sonder le cœur de l'homme. Cela signifie que la littérature tendait à établir une sorte de relativisme moral. Pour le réalisme politique, comme pour l'idéalisme philosophique, le mal, ce n'était pas sérieux. On nous a enseigné à le prendre au sérieux. Ce n'est ni notre faute, ni notre mérite, si nous avons vécu en un temps où la torture était un fait quotidien. Chateaubriand, Oradour, la rue des Saussés, Tulle, Dachau, Auschwitz, tout nous démontrait que le mal n'était pas une apparence, que la connaissance par les causes ne le dissipe pas, qu'il n'est pas l'effet de passion qu'on pourrait guérir, d'une peur qu'on pourrait surmonter. Satan a dit un jour Maritain est pur. Pur, c'est-à-dire sans mélange et sans rémission. Nous avons appris à connaître cette horrible, cette irréductible pureté. Elle éclatait dans le rapport étroit et presque sexuel du bourreau avec sa victime. Qui effacera cette messe où deux libertés ont communié dans la destruction de l'humain? Nous savions qu'on la célébrait un peu partout dans Paris, pendant que nous mangions, que nous dormions, que nous faisions l'amour. Nous avons entendu crier des rues entières et nous avons compris que le mal, fruit d'une volonté libre et souveraine, est absolu comme le bien. Un jour viendra peut-être où une époque heureuse, se penchant sur le passé, verra dans ses souffrances et dans ses hontes un des chemins qui conduisirent à sa paix. » Fin de citation. Donc, dans « Qu'est-ce que la littérature ?», Sartre concluait de la guerre récente, et c'était la leçon qu'elle portait pour lui, qu'il n'existait aucune raison que la littérature dispose et donc s'exempte de morale et de conception du bien différentes de celles qui ont cours dans la vie des individus et des groupes, des communautés et de sociétés. Donc Sartre, qui donne l'expérience de la torture et de la guerre récente pour la scène primitive de la littérature, Blanchot répond par une opération de déplacement et de recouvrement. C'est-à-dire qu'il avance le moment de la terreur révolutionnaire et il efface par là même la référence à l'histoire contemporaine immédiate. On recule d'un cran dans l'histoire. Donc contre la littérature de l'engagement, il fait de ça de l'écrivain par excellence, et je dirais même contre la littérature pour la démocratie que Sartre propose. Donc il oppose la liberté et la solitude absolue que la figure de l'aristocrate qu'est Sade incarne à ses yeux, avant de conclure à l'impropriété pour lui et à l'absence de toute leçon de la guerre qui vient de s'achever au regard de la littérature. On trouve ça dans cette phrase dans la littérature et le droit à la mort. Cela, la terreur et la révolution, non la guerre, nous l'ont appris. Alors pour ce qui nous intéresse ici, la littérature de l'après des camps, à quoi on peut relier une part des romans de Volodine, on peut rappeler que Blanchot est un lecteur tardif de l'espèce humaine. Le livre de Robert Antelme, dont il n'est pas question en 1949 dans la part du feu, je ne pense pas qu'il aurait pu écrire la littérature et le droit à la mort s'il avait pris en compte intellectuellement Antelme. Il n'en sera question qu'en 1958, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Je ferme cette parenthèse. Donc ces deux scènes primitives exposent la même nécessité de redéfinir au sortir de la guerre la littérature en la rapportant à l'histoire. Dans les deux cas, il est confié à l'histoire le soin d'indiquer la justification, la pertinence et ce qui serait la vérité de la littérature. Inspirées ou imposées à deux contemporains par l'actualité et l'histoire présente, elles sont autant symétriques que divergentes, et des divergences qui, à travers la question de savoir où et quand dans l'histoire commence véritablement la littérature, porte sur les relations de celle-ci avec ce qu'elle n'est pas, avec son contexte, avec le monde commun et les discours qui ont cours dans ce monde commun. Et dans ces divergences, on peut évidemment reconnaître l'origine de toutes les conceptualisations antinomiques de la littérature qui alimenteront les débats critiques français jusqu'au milieu des années 60. Donc la Révolution est le moment où naît la littérature. Celle-ci trouve avec son identification à la Révolution une fonction critique. Elle est, comme je l'ai dit, critique de la doxa, critique des discours qui ont cours, critique de l'institution linguistique et sociale de la réalité. Dans cette fonction critique, la littérature trouve la justification qui lui permet d'échapper à la contingence, et elle trouve sa nécessité. Elle est par ailleurs censée détenir une vérité sur le présent et sur ses pathologies. Elle est une rupture avec les discours ordinaires. La théorie littéraire rapporte généralement l'écart que fait l'œuvre littéraire à l'impossibilité de définir cette œuvre littéraire comme un corrélat de l'ordre. Et la littérature est alors identifiée à une rupture entre la culture et la société. L'antithèse d'une littérature efficace, qui définit la génération des dépossédés nommée par Ollier, une génération qui trouve son inspiration dans le refus de la distinction entre la littérature et le politique, et qui pour cette raison rêve d'un réalisme, comme dit Ollier, qui n'est plus de l'ordre de la représentation mais qui est performatif. Cette littérature donc vise au fond à ne pas laisser intact le monde qu'elle décrit. Cette hantise est moins éloignée qu'il ne peut le paraître de la définition de la littérature comme art martial que l'on trouve sous la plume de Volodine. Je pense notamment à la comparaison entre la mitraille et le discours dans Lisbonne Dernière Marge. Je cite « Après m'avoir interdit la mitraille, voilà que mon dogme m'interdit l'encre noire. » Et aux ultimes mots du livre en capitales italiques, « Nous étions jeunes ». Et pour lutter contre l'absurdité impardonnable du monde, nous avions des armes. Donc il y a deux types de littérature, nous dit Antoine Volodine, je cite, toujours Lisbonne Dernière Marge, des collectifs d'intellectuels spécialisés, nous autres, au sens où dans une colonie d'insectes, chaque groupe remplit une fonction prédéterminée et unique. Des communes intellectuelles polémiques entre elles, et soit elles s'accommodent de la réalité truquée, en se réfugiant dans l'esthétisme, soit elles cherchent la vérité introuvable en entamant des enquêtes théoriques qui les mènent à la frontière de la subversion. Fin de citation. Associé à la fonction critique que les modernes ont prêtée à la littérature, on a cette description récurrente de la littérature comme écart formel, c'est-à-dire comme ce qui déroge à l'ensemble des conventions discursives. Et cette dérogation, ou cette exceptionnalité de la littérature, se dit au fond toujours depuis un siècle dans les mêmes termes. Elle se dit à travers l'idée de l'étrangeté. De Proust à Deleuze, cela conduit à poser que la littérature est une langue étrangère. Parce que, évidemment, quelqu'un comme Marc Fumaroli déteste, puisque c'est un homme de la conversation et des salons et non pas un homme de l'écriture. Je renvoie aux trois institutions littéraires dans lesquelles il reprend ses contributions au lieu de mémoire de Pierre Nora. Donc Proust n'en déplaise aux spécialistes de la rhétorique et de l'art de cour ou de l'art du pouvoir, distingue l'écrivain de l'homme du monde, de la littérature, de la conversation, des salons et des belles lettres. Donc vous savez, vous connaissez cette célèbre phrase, « Les beaux livres sont écrits dans une langue étrangère ». Sartre reprend la formule dans les mots, on parle dans sa propre langue, on écrit en langue étrangère. Et on la retrouve partout, on le sait, chez Deleuze, notamment dans Critique et Clinique, à propos de Kafka, de Beckett, comme à propos de Bartleby, de Melville. Un grand écrivain est toujours comme un étranger dans la langue où il s'exprime, même si c'est sa langue natale. Autre citation, les chefs-d'œuvre de la littérature forment toujours une sorte de langue étrangère dans la langue où ils sont écrits. À propos de Melville. Dernière citation, l'écrivain, comme dit Proust, invente dans la langue une nouvelle langue, une langue étrangère en quelque sorte. Il met à jour de nouvelles puissances grammaticales et syntaxiques. Cette façon de définir la littérature comme une langue étrangère est la manière proprement moderne de penser ou de ne pas penser au choix, moins le style de la vieille stylistique que l'individualisation et la singularisation que font l'œuvre littéraire. Cette façon de définir la littérature se retrouve chez Volodine lorsqu'il définit la littérature post-exotique, entre autres attributs, dans la conférence à la Bibliothèque nationale de France qu'il a déjà été cité hier, comme, je cite, « une littérature étrangère écrite en français ». Alors j'ai jusqu'ici sommairement noté ce qui rattache ou ce qui rapproche le contemporain et le moderne. Il est maintenant temps d'indiquer ce qui les sépare. Chez Antoine Volodine, aussi, la littérature a partie liée avec la Révolution. Mais la littérature de Volodine ne fait guère de différence entre la guerre et la Révolution. En outre, à la différence de Sartre et de Blanchot, elle ne fait pas référence à un événement unique. Elle se présente comme, je cite, « une littérature qui revendique en toute occasion son statut d'étrangeté et d'étrangéité, qui revendique sa singularité et qui refuse toute appartenance à une littérature nationale, précise et clairement nommable. » Fin de citation. De plus, comme on le sait, dans la littérature d'Antoine Volodine, la Révolution n'est pas un horizon d'attente. Elle ne coïncide pas avec les temps futurs, on l'a dit. Elle n'est pas, comme chez Blanchot, une origine toujours à venir. C'est-à-dire qu'elle ne peut justifier la littérature, elle ne peut donner sa raison d'être. Elle appartient tout entière au passé. Tel est le sens de la localisation de la Révolution dans Lisbonne dernière marge, c'est-à-dire le Portugal, comme dernier épisode explicitement révolutionnaire dans l'histoire européenne du XXe siècle. Je cite. « Ils avaient commencé à discuter sur la Révolution des œillets, l'année 1975. Ingrid faisait montre d'une science étendue. Elle ne se trompait jamais sur les dates des manifestations importantes, et d'ailleurs en juillet 1975, en août, elle avait participé à certaines d'entre elles, réclamant, point levé, au milieu des soldats en treillis, au milieu des invalides de 20 ans, revenus sans jambes d'Angola ou de Mozambique, exigeant avec la foule gauchiste la dissolution de l'Assemblée constituante. Elle citait les noms des officiers du Conseil de la Révolution. Elle jonglait avec des sigles que Kurt identifiait de temps en temps, mais pas toujours. COPCON, SUV, PRBBR, BALIS, UDP, MFA. MRPP, LUAR, PCP. » Fin de citation. La révolution est du passé. Le nom des singes, sur ce constat qui a été rappelé hier, la révolution était morte, une fois de plus, et même très morte. J'avais honte d'avoir participé à ce ratage. La révolution a été défaite et avec elle ont été défaits les mots de la révolution. Ou plutôt, les mots de la révolution sont ce qui demeure de ce qui fut un temps la révolution en tant que projet. Ils portent dans le présent le deuil de ce projet. Les mots de la révolution ne sont pas portés par l'action, mais détachés de l'action. C'est pourquoi il leur arrive de surgir comme de purs fragments de discours, sans support dans le réel de l'histoire. Je pense ici au discours politique que peut tenir Varvalia Lodenko dans Les Anges mineurs. C'est une citation un peu longue, mais que je trouve magnifique. Par sa répétition, la litanie et la rhétorique révolutionnaire. Devant nous s'étend la terre des pauvres, dont les richesses appartiennent exclusivement aux riches, une planète de terre écorchée, de forêts saignées à cendres, une planète d'ordures, un champ d'ordures, des océans que seuls les riches traversent, des déserts pollués par les jouets et les erreurs des riches. Nous avons devant nous des villes dont les multinationales mafieuses possèdent les clés, les cirques dont les riches contrôlent les pitres, les télévisions conçues pour leur distraction et notre assoupissement. Nous avons devant nous leurs grands hommes juchés sur une grandeur qui est toujours un tonneau de sanglantes sueurs que les pauvres ont versé ou verseront. Nous avons devant nous les brillantes vedettes et les célébrités doctorales, dont pas une des opinions émises, dont pas une des dissidences spectaculaires n'entre en contradiction avec la stratégie à long terme des riches. Nous avons devant nous leurs valeurs démocratiques, conçues pour leur propre renouvellement éternel et pour notre éternelle torpeur. Nous avons devant nous leur distribution gratuite de dollars pour que nous restions pauvres et eux riches, leurs théories économiques méprisantes et leur morale de l'effort et leurs promesses pour plus tard d'une richesse universelle pour dans 20 générations ou dans 20 000 ans. Fin de citation. Dire que la révolution appartient au passé, c'est dire plusieurs choses. En faisant de la révolution une donnée du passé, on ne livre pas seulement un constat idéologique. À diverses occasions, Antoine Volodine lui-même a expliqué que la littérature post-exotique pouvait puiser sa matière, on l'a rappelé hier, dans la collection, je cite, « des innombrables atrocités qui composent le XXe siècle et en contrepoint la succession des révolutions ratées ou vaincues ou défigurées. » Fin de citation. Ou bien encore dans « l'obscène catastrophe que représente l'échec du projet révolutionnaire du XXe siècle ». On livre aussi une donnée narrative. Dire que la révolution appartient au passé, c'est dire que la révolution a été vaincue, sans doute, mais c'est aussi se prononcer sur son propre désastre idéologique. Je cite. Nous ne pouvions nier que ce que nous devions affronter jour après jour, à chaque heure de ces jours qui ne tombaient pas, c'était surtout la laine fétide des populations dont nous avions proclamé haut et fort l'innocence. Et tandis que nous tapions à coups redoublés sur des objectifs militaro-industriels, la population soufflait sur nous un vent de décomposition que nous avions honte de renifler, honte d'interpréter et honte de reconnaître. Et nous préférâmes alors conserver le silence entre nous sur ce désastre idéologique. Nous trouvions ensemble des raisons pour excuser la population des métropoles, mais individuellement nous ne trouvions aucune excuse, ni au porcher du monde occidental, ni au cochon occidental lui-même. Et nous commençâmes à nous cacher les uns aux autres, et les unes aux autres, ces pensées qui contenaient à l'égard du peuple autant d'arrogance et de mépris que la pensée des rois de l'Atlantique Nord ou celle des rois des bombes à billes. Fin de citation. Dire que la révolution appartient au passé, c'est surtout dire, en une réminiscence des thèses souvent citées de Benjamin sur la philosophie de l'histoire 1940, que l'histoire est celle des vainqueurs, non celle des vaincus, et donc qu'il ne peut y avoir d'histoire de la révolution. Cela signifie qu'il n'est d'histoire que du pouvoir. À l'histoire du pouvoir s'oppose classiquement la mémoire des vaincus, une mémoire trouée qui s'appuie beaucoup sur les rêves, un territoire où il est difficile au pouvoir de pénétrer et de régner. Le pouvoir est d'abord le pouvoir de dire, de raconter au présent et de reconstruire le passé selon ses propres fins. Je cite. Lisbonne, dernière marge. La société que l'on peut deviner là-derrière est fondée sur une manipulation à grande échelle des souvenirs collectifs, sur un écrasement mutilant de la mémoire. On ignore tout, par exemple, des origines biologiques de l'homme et de la Renaissance, comme s'il y avait eu quelque part une rupture organique, génétique, à la suite de laquelle il avait changé de nature. On ne sait rien de ses origines historiques, qui se perdent dans les tourbillons d'une guerre mythique, la guerre noire. Une construction politique de pure façade administre la société. Fin de citation. La révolution a cédé à ou a engendré un pouvoir, le pouvoir nu de la dictature. Ce pouvoir n'est que rarement incarné. Il l'est dans Alto Solo. Encore les frondistes de Matko cherchent-ils à quitter la scène et à abandonner les positions de pouvoir visibles qui sont les leurs. Il est dans Lisbonne, dernière marge, le pouvoir des ruches. Le pouvoir n'est pas incarné, mais évidemment, il a des organes. Il est celui des archives, avec leur, je cite, « salle souterraine blindée à l'épreuve de tout cataclysme », appartenant à un monde différent, avec des valeurs différentes. Le pouvoir est la seule instance autorisée à dire ce qui est, de ce qui est. Le présent, mais aussi le passé. Le pouvoir est d'abord une maîtrise du temps et de la liaison ou de la succession du temps. Il est aussi une vaste entreprise d'effacement, de remodelage et de réécriture du passé. Il est une machine d'amnésie. Alors là, également une autre citation longue. Mais qui annonce la conclusion de la communication tout à l'heure. Nous avons vécu tous deux écrasés par son absence et décervelés par la négation de son existence, comme dans les familles franquistes d'Espagne, où, paraît-il, en cachette, des fils effarés ont découpé sur les photos à la fin des années 30 le visage des oncles et des pères républicains. Et tous deux, nous sommes rentrés dans un brouillard comparable, c'était 10 ans plus tard, après la défaite de l'Allemagne éternelle, nous avons eu droit à la même lobotomie sournoise. Voilà qu'en Germanie, chacun dirigeait les ciseaux sur sa propre photographie, dirigeait la pointe vorace des cisailles sur sa propre physionomie, dans les cités ravagées voltaient le cliquetis de ses autocensures et de ses automutilations, et l'on entendait les hitlériens sanguins et consanguins extirpés de leur code génétique et de leur mémoire, et de leur chair intime. Toute trace d'une possible compromission avec le passé compromettant, et soudain les oncles en uniforme de la Wehrmacht nièrent avoir connu un quelconque élan d'enthousiasme pour quelque fureur. Soudain, oncles et pères ne purent se souvenir des phrases élémentaires qui les avaient aidés à affronter le froid et les combats, et qui les avaient aidés à haïr durant toutes les décennies interminables du Troisième Reich de 1000 ans. Et soudain, ils ignoraient s'ils avaient ou non ignoré l'existence des camps de la mort. Soudain, le mot « extermination » et le mot « solution finale » résonnaient comme des vocables inconnus et à la rigueur bizarre et fortement étrangers à leurs oreilles. Fin de citation, Lisbonne, dernière marge. Il faut mettre en relation l'histoire sous-rature, qui est celle du pouvoir, cette disparition des pères et des oncles des albums photographiques, donc se rater dans la transmission, et l'interrogation sur le mécanisme de la reproduction des êtres vivants que l'on lit dans Lisbonne dernière marge. C'est-à-dire le fait qu'on a oublié, au fond, comment on se reproduit. Je cite, « Au IIe siècle, ni les collectifs d'écrivains, ni les critiques, ni les lecteurs n'avaient de représentation cohérente des processus physiologiques conduisant à la reproduction de l'espèce. En d'autres mots, ils ne savaient pas ce qui se passe avant la naissance. » Fin de citation. On peut aussi mettre en rapport ce raté dans la transmission et la généalogie avec la pratique proliférante de l'hétéronymie. Étant donné cet échec de la Révolution, où se situe la littérature, qu'est-elle et que fait-elle? Face au pouvoir, il semble que le souvenir de la Révolution ne puisse précisément survivre que dans l'activité des groupes et des brigades que sont les communes et les collectifs littéraires. La littérature peut être le fait d'un écrivain, ainsi dans Alto Solo, mais elle est le plus souvent le fait de collectif. Elle est ce qui demeure après la Révolution ou une fois la Révolution échouée. Ainsi est le roman d'Ingrid Fogel dans Dernière marge. Il en est de même dans Alto Solo ou de la littérature de Yakup Kaczbakiro. Qu'est-ce que la littérature? C'est moi qui parle, c'est pas un ventriloque. Elle peut prendre la forme d'un lexique. Comme dans Des anges mineurs, il s'agit de Fred Zempfel, je cite. « Il rédigeait de petits textes, d'une noirceur palpable, car il n'avait pas supporté l'effondrement de l'humanisme, et il avait ainsi à son actif plusieurs recueils de récits inachevés, autobiographiques et assez médiocres. En vérité, plus que créateur, Zempfel était linguiste. Au roman, il préférait les dictionnaires. Une fois libéré, il avait eu le projet de constituer un lexique d'argot des camps.
C'est là-dessus qu'il travaillait juste avant son suicide. Fin de citation des anges mineurs. La littérature est secrète et clandestine, elle a la forme du samizdat, passant un pouvoir qui ne tolère pas, je cite, le droit à des archives privées, incontrôlées et incontrôlables. La littérature est d'abord un contre-pouvoir, elle est souvent aussi le fait d'un homme en trop, pour paraphraser Lefort. Elle est une résistance et un contre-pouvoir. Une littérature de la révolution vaincue qui se veut le lieu où s'est réfugié le questionnement de l'institution linguistique et sociale de la réalité est une littérature qui s'oblige enfin à être cryptée. Personne ne se doutera que j'aurais écrit une histoire vraie de notre époque, déclare Ingrid dans Lisbonne dernière marge. C'est une littérature qui se sait observée et scrutée. Je cite le post-exotisme en dit leçon 11. Nous n'avons presque jamais raconté les histoires que l'ennemi attendait de nous. Le plus souvent, nous les avons racontées de loin, en adoptant un point de vue formaliste, littéraire en excès, qui ne correspondait guère à notre goût. Nous avons contourné les anecdotes centrales afin de ne pas renseigner l'ennemi sur ce qui nous émouvait vraiment et nous plaisait. Nous avons en permanence dévidé de faux souvenirs d'enfance, d'inutilisables biographies, des histoires gigognes qui déconcertaient l'ennemi et le frustraient. Fin de citation. Donc le récit littéraire devient le questionnement des trois temps, que sont le passé, le présent, le futur, et il est la figuration de la disponibilité de tout temps selon le présent. Ce présent est ainsi un présent de plusieurs temps. C'est cela qui autorise les jeux de la métalepse dont parlait Pierre Ouellet hier dans le récit de Volodine. Alors, je voudrais terminer cette communication par une citation et par l'histoire d'une œuvre. La citation est extraite des Invisibles, le roman de Nanni Balestrini, dont le titre désigne ces garçons et ces filles des années de plomb en Italie, entre 1970 et 1980, qui sont passés de la contestation lycéenne à l'activisme révolutionnaire, et qui, sous l'effet d'une répression de plus en plus dure, ont perdu leurs illusions, leur liberté et parfois leur vie. Je cite. Le roman date de 1987, il est paru en traduction chez Paul en 1992. Et là, je dois dire que je ne sais plus trop bien comment, que je ne sais plus trop bien où j'en étais resté de mon histoire. Il y a un tas de choses que j'ai oubliées. Je ne sais plus très bien comment ça s'est passé au juste, et puis il y a aussi un tas de choses dont on ne peut pas se rappeler qu'il vaut mieux oublier. Ce n'est pas que je veuille vous raconter toute l'histoire de ma vie, et je ne veux même pas raconter tout ce qui est arrivé à cette époque, où se sont passées tant de choses différentes, de tous les genres et contradictoires, car les mettre ensemble, essayer de leur donner un sens, me paraît tout à fait impossible. Mais ce qui m'intéresse ici maintenant, c'est de raconter simplement de mon point de vue, évidemment, ce qui m'est arrivé, parce que maintenant, ça vaut peut-être la peine d'être raconté. Fin de citation. Alors, cette citation vaut à double titre. Premièrement, elle indique pour moi une généalogie du contemporain. Elle peut être rapprochée des phrases suivantes dans le post-exotisme en dit leçon 11. Je cite. Une fois incarcérée, cette armée vaincue, ce noyau dur de l'égalitarisme a déversé sous forme romanesque sa passion non éteinte, sous forme échevelée, sous forme somptueuse, fantastique, exubérante, sous forme tonnante. Les bases de la littérature post-exotique furent élaborées durant la décennie 70. Durant ces années qui, en dépit de la défaite, restaient enceintes de possibles renouveaux et de possibles encore. Des années de secrets vivaces, lumineux, malgré le plomb et malgré la carcérale violence. Fin de citation. Deuxièmement, cette citation de Nanni Balestrini, elle vaut comme la reconnaissance pour moi de l'importance du genre de l'interrogatoire chez Volodine. Importance sur laquelle l'écrivain a lui-même attiré l'attention à diverses reprises. Je renvoie en particulier à un entretien accordé à la revue Prétexte qui a été cité hier, numéro 21-22. Je le cite. L'interrogatoire est en soi une formidable méthode pour exposer une matière littéraire. C'est le point d'aboutissement d'une action, d'une enquête, d'une traque, d'un destin, et c'est le moment où deux genres, théâtre et roman, se confondent d'une manière extrêmement plaisante. On se trouve dans un présent réduit à une confrontation brutale, C'est un présent qui ne peut plus déboucher sur autre chose que la mort ou la folie. Seul le passé, seule la mémoire du passé possède encore une dynamique. Et c'est cela qu'exploite le personnage interrogé, qui endosse, sous la pression de l'échec et de la douleur, le statut de narrateur. Fin de citation. Alors cette forme de l'interrogatoire, cette forme rhétorique, c'est ce qui fait que la fiction existe. Au fond, la fiction est ce qui existe, ce qui a lieu ou trouve son lieu dans l'écart entre la question posée et la réponse donnée. Et je dirais cela au moins depuis Stiller de Max Frisch en 1954 ou depuis le questionnaire d'Ernst von Salomon en 1951 jusqu'à l'inquisitoire de Robert Pinger en 1962. Vous savez, cet interrogatoire d'un jardinier sourd qui a pour incipit « oui ou non, répondez », sans remonter jusqu'à Kafka. La fiction peut être une réponse à la question, elle peut être une question sans réponse, elle peut être le jeu de la question et de la réponse. Je cite « Une atmosphère de nuit sans histoire régnait dans le centre de détention Manuela Arruitipe. Cette école militaire où on l'avait amenée 3 semaines auparavant afin d'éclaircir avec elle ce qui avait été son existence, ce qu'avaient été ses convictions et ses amours, et afin de lui faire dire en quoi elle avait déçu finalement et en quoi elle avait menti, et depuis combien de temps, et pourquoi elle avait choisi de mentir dans des livres plutôt qu'ailleurs. » Fin de citation, vue sur le suaire. Interrogatoire est la dramatisation de la contrainte exercée sur la structure de la question et de la réponse, hein. Structure question-réponse qui constitue au fond la structure de base de tout discours, en tant que tout discours suppose, implique un locuteur et un interlocuteur. L'interrogatoire organise enfin cette forme très particulière du récit de soi qu'est l'autocritique. Un genre nouveau, l'une des formes de l'identité narrative, si une telle chose existe, qui a été entièrement créée par un pouvoir. Je cite, « Par intervalle, je posais des questions, mais le plus souvent, j'y répondais. » Nuit blanche en Valkyrie. Dans Vue sur le suaire, je cite, « Pilgrim avait été un spécialiste des aurochs. On l'avait transféré en zone de pré-acheminement afin de lui donner l'occasion d'écrire son autocritique. Mais il n'avait pas réussi à écrire ce qu'on lui demandait. Et au bout de 2 ans, on lui avait confisqué ses bribes de confession et on lui avait attribué un emploi dans les sous-sols. » Fin de citation. 2 pages plus loin, ce dialogue. Sternhagen dit « J'ai beaucoup tué sous ses ordres. » « Ce n'est pas lui qui donnait les ordres, » dit Anita. « Ne t'inquiète pas, » dit Pilgrim. « À toi non plus, personne n'a demandé de faire ton autocritique. » Fin de citation. Dans Des anges mineurs, il s'agit de Will Scheinman. Au cours des mois, il avait infléchi ses positions jusqu'à admettre à 100% le point de vue de ses juges. Et vers la fin, il n'avait plus du tout cherché à se justifier ou à faire valoir pour lui des circonstances atténuantes. Quand il prenait la parole, c'était de plus en plus souvent pour se couvrir de fange. Fin de citation. Alors, je songe ici aux inquiétudes et aux réserves manifestées à la fin de sa vie par Ricoeur à propos de la fragilité de l'identité narrative et de sa manipulation possible. Je cite, c'est dans le parcours de la reconnaissance. C'est dans l'épreuve de la confrontation avec autrui, s'agissant d'un individu ou d'une collectivité, que l'identité narrative révèle sa fragilité. Les menaces qui attestent la fragilité de l'identité personnelle ou collective ne sont pas illusoires. Il est remarquable que les idéologies de pouvoir entreprennent avec un inquiétant succès de manipuler ces identités fragiles par le biais des médiations symboliques de l'action, et principalement à la faveur des ressources de variation qu'offre le travail de configuration narrative, dès lors qu'il est toujours possible, comme on l'a évoqué plus haut, de raconter autrement. Ces ressources de reconfiguration deviennent ainsi des ressources de manipulation. La tentation identitaire, consistant dans le repli de l'identité ipsée sur l'identité idem, prospère sur ce sol miné. Fin de citation. Alors, l'histoire est la suivante. On peut juste allumer le cinématographe. Alors, l'histoire est la suivante. Donc à son retour d'Espagne, c'est l'histoire d'une œuvre. À son retour de la guerre d'Espagne en 1938, David Alfred Siqueiros, qui est l'un des trois grands peintres du muralisme mexicain avec Diego Rivera et Orozco, a reçu du syndicat des électriciens mexicains la commande d'un grand mural pour le nouveau siège social du syndicat. Donc ce mural dont vous voyez ici un fragment, et je regrette, bon, je remercie pour la confection de ce transparent, et je suis responsable de la mauvaise qualité de l'image, parce que c'est une image que j'ai tirée de l'Internet, évidemment, et imprimée, quand même pas en brouillon, mais enfin bon. Donc ce mural, qui est l'un des chefs-d'œuvre de Siqueiros, a pour titre « Portrait de la bourgeoisie ». Retrato de la burguesia. Il occupe trois murs et le plafond de l'escalier principal du bâtiment qui conduit au premier étage. C'est le produit d'un travail collectif de six artistes. Trois peintres mexicains et trois peintres espagnols réfugiés au Mexique dès 1939. Le mural, dans les parties que vous ne voyez pas puisqu'il s'agit d'un fragment, le mural montre les forces ennemies du capitalisme et du fascisme, deux forces qui se fondent et fonctionnent comme une seule et même machine infernale, avalant les travailleurs pour créer de la richesse. Un révolutionnaire armé, de classe et d'ethnie indéterminée, s'engouffre dans la Seine pour venir en aide au prolétariat. Un ciel bleu qui occupe le plafond de l'escalier, c'est un escalier assez étroit, occupe le plafond de l'escalier où a été peint le mural et flanqué de tours électriques et dispense l'espoir au prolétariat grâce au progrès industriel et technologique. Donc ce mural date de 1939-1940. En mai 1940, Siqueiros devait être arrêté avec deux autres personnages pour avoir pris part à un premier attentat manqué contre Trotsky, réfugié au Mexique depuis 1937. Le 24 mai 1940, à 4h du matin, un commando d'une vingtaine d'hommes était parvenu à pénétrer dans la demeure de Trotsky à Coyoacán. Pendant plusieurs minutes, ils mitraillèrent la chambre de Trotsky et lancèrent deux grenades incendiaires ainsi qu'une bombe à retardement. Malheureusement, ou miraculeusement, il n'eut ni mort ni blessé. Ce premier attentat manqué fut suivi d'un autre réussi, celui-ci, le 22 août 1940, à l'aide du plus célèbre piolet d'alpiniste de l'histoire qui devait fracasser le crâne de l'exilé. Le mural devait être achevé sans la participation de Siqueiros, qui était alors arrêté. Ce mural a fait l'objet de nombreuses négociations entre les commanditaires, le syndicat des électriciens, et les artistes, et il a fait l'objet d'autant d'ajustements et de remaniements. 1939-1940, ça veut dire que l'œuvre a été réalisée au plus fort de la polémique internationale née du pacte de non-agression signé entre l'Allemagne nazie et l'URSS de Staline en août 1939. Donc un fragment de l'œuvre, et c'est celui-ci que je vous montre, indique ceci. Depuis un microphone, un démagogue s'adresse à la foule assemblée, défilant et rangée autour de lui comme les membres d'un orchestre symphonique. Dans les étapes préparatoires de l'œuvre, ce démagogue avait d'abord les traits de Mussolini, empruntés à une photographie. Siqueiros, avant de tenter d'assassiner Trotsky, a recouvert les traits de Mussolini en peignant la tête d'un perroquet. Celui que l'on peut toujours voir aujourd'hui au siège du syndicat, où je vous indique à aller, au 45 de la rue Antonio Caso, dans la colonia Tabacalera de la délégation de Cuauhtémoc, à Mexico. Alors, ce repeint vaut pour moi pour la réécriture de l'histoire, le conflit de l'histoire et de la vérité qui est au cœur de la fiction chez Antoine Volodine. Et le perroquet de Siqueiros, lui, me fait songer aux animaux parlants et aux oiseaux de ses récits, et notamment à l'échassier des anges mineurs, qui assiste à l'exécution de Wilhelmsheimmann, je cite. Il y eut un oiseau qui était originaire du lac Ofsgol, un échassier d'humeur folâtre, critiqué par les siens pour ses comportements individualistes, et qui ce matin-là s'amusait à tracer des courtes boucles au-dessus du terrain des opérations et à faire du surplace tantôt à la verticale des chamelles, tantôt à la verticale des sœurs Holmes. Il volait dans ce style rapace, plus pour apaiser sa curiosité que pour repérer de la nourriture. vous remercie.
Merci, tu restes là. Merci à toi, Philippe, pour cette communication avec image finale et image illustrative de tout et sommative de tout le propos. Et pour l'introduction, enfin, qui nous menait du contexte historique à ton propos, c'était une façon d'entrer, de nous amener pour le matin, c'est parfait, de nous amener au cœur de ton propos. Donc je vais ouvrir les questions possibles, puisque nous avons deux communications seulement. Je pense que nous pouvons accorder pas mal de temps à la discussion et proposer donc des questions. Si vous voulez bien vous nommer, je ne connais pas tous, évidemment.
Merci pour cette présentation. Ma question va revenir sur votre point de départ. Le lien que vous avez posé entre littérature et révolution. Alors, je trouve que ce lien est très commode parce qu'il nous dit quelque chose de la révolution de la littérature si ce lien fonctionne toujours. Mais je me suis demandé, par exemple, si dans votre analyse, il pouvait exister des écrivains conservateurs. Suivant le type de réponse que vous apportez à cette question, on voit que ça ouvre tout un champ de nouveaux questions sur la nécessité qu'il y aurait à parler de la révolution sur un mode un peu plus déterminé, ou du pouvoir sur un mode un peu plus déterminé, c'est-à-dire s'il peut y avoir aussi des écrivains conservateurs, il peut y avoir donc du coup plusieurs types de révolutions, plusieurs types de pouvoirs. Et comment pouvez-vous, à partir de là, définir plus spécifiquement le pouvoir ou la révolution dans l'œuvre de Jean-Louis ? Est-ce qu'il y a des éléments de finalité ? Est-ce que c'est les finalités de l'exercice du pouvoir qui permettent de réfléchir à la réalité du pouvoir et ses modalités d'exercice ? Et de la même manière, on peut poser cette même question pour la révolution. Quel type de révolution vous trouvez chez Mondeville ? Quel type de pouvoir vous trouvez chez Mondeville ?
Il y a plusieurs questions dans votre question. Bon, les liens littérature et révolution, je faisais implicitement référence au dernier livre de Laurent Génie, hein, Je suis la révolution. Bon. Alors, qu'il y ait des écrivains conservateurs, oui, Solzhenitsyn est un écrivain conservateur, Chalamov, non. Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire par le... Il ne s'agit pas d'identité... Enfin, la liaison entre littérature et révolution, je crois que c'est un moment marqué, daté, hein, sans doute très français en plus, bon, de la littérature et de la critique. Donc moi je suis parti de là en restant centré sur une analyse de type national. Qui est les écrivains conservateurs? Je ne comprends pas votre question. Moi j'ai travaillé sur Céline. Alors c'est qui est les écrivains conservateurs? Oui, qui est les écrivains contre-révolutionnaires? Oui, mais je ne comprends pas quel est l'arrière-plan de votre question.
Ce que je me suis demandé, c'est si tout le reste de votre propos n'était pas tributaire de ce point de départ-là. Et du coup, ça induisait une certaine compréhension de la révolution, ça la présupposait par rapport à cet arrière-fond. Mais de manière plus générale, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez dit spécifiquement ce qu'était le pouvoir ? Vous parlez par exemple des modalités d'exercice du pouvoir de dire comment ça joue sur la structure narrative. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on pouvait penser le pouvoir sans examiner les finalités de l'exercice du pouvoir. Et si on prend en compte la question des finalités, on va avoir une définition beaucoup plus substantielle du pouvoir et de la révolution. On va pouvoir distinguer des révolutions, distinguer des modalités d'exercice du pouvoir, des projets politiques. Et de ce point de vue-là, est-ce que ma curiosité, elle porte plus particulièrement sur l'œuvre d'Antoine de Lévis, c'est-à-dire quelle est la réalité du pouvoir entre les questions, quelle est la réalité du projet politique, s'il doit y avoir un, avec plein de guillemets pour projet, hein, je ne suppose pas que ce soit un texte politique.
Oui, Je ne vais pas répondre à la question, je vais répondre de biais, parce que je suis... Bon, je pense que ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant dans cette œuvre, enfin, c'est que, justement, par rapport au moderne, il y a une distance prise par rapport à ce qui était un pouvoir de la littérature, revendiqué comme tel. Donc je ne vais pas me placer dans le... Je refuse, ou je ne sais pas me placer dans le plan plus large que vous définissez. Cette association de la littérature et de la révolution, bon, comme je vous l'ai dit, c'est une manière de justifier... Enfin, pour les modernes, c'était une manière de justifier la littérature. Hein. Bon. Et donc justifier la littérature par la révolution, c'est aussi parler du pouvoir de la littérature. Bon, chez Volodine, chez les écrivains contemporains, cette question du pouvoir de la littérature est complètement prise en compte. D'ailleurs, lorsqu'hier il est question de tout un chacun, de choses comme ça, c'est-à-dire que l'exception esthétique et le pouvoir qui est lié à cette exception esthétique, bon, est intégré. Donc la question du pouvoir s'est déplacée. Je sais que je ne réponds pas frontalement à la question, mais je ne sais pas si je suis incapable d'y répondre ou si je n'ai pas envie d'y répondre.
Frédéric Dethu, oui. Je rebondirai
quand même un peu sur la question que vous venez de poser, étant donné que vous êtes pas mal appuyé sur Lisbonne dernièrement. Et vous avez parlé de représentation. Enfin, vous avez dit deux choses à deux moments. Vous avez dit que la communication s'inscrivait dans un champ de recherche qui est le rapport de la littérature à la démocratie. Et puis par ailleurs, vous êtes pas mal appuyé sur Lisbonne dernière marge et en disant qu'il y avait si le pouvoir pouvait apparaître comme caché, mais ayant quand même des organes. Et en l'occurrence, sur la dernière marge, on est vraiment dans... c'est l'un des rares romans de Volodine qu'on peut situer historiquement, puisque le personnage d'Emilia Gogol est une activiste terroriste de la Haute Armée Fraction en Allemagne. Et donc là, il est bien question de la social-démocratie allemande des années 70. Et en l'occurrence, ça pose il y a une critique évidente de la démocratie allemande de l'époque, comme masquant en fait un legs totalitaire du nazisme qui continue de façon souterraine. A complètement miné ce pouvoir et a expliqué la façon dont il se représente dans l'œuvre comme masquant son action. Et donc voilà, là on a quand même. Moi la question que je me posais, c'est finalement comment vous posez cette question. La question du rapport de l'œuvre de Volodine à la démocratie, par exemple.
Alors, je pense que... je n'ai pas dit que le pouvoir était caché. Hein. J'ai fait une citation...
Non, mais les ruches...
Voilà. Oui. Non, j'ai dit qu'il n'est pas incarné. C'est-à-dire que, en général, un pouvoir totalitaire est incarné. Bon, à la différence de la démocratie, qui n'est pas incarnée, qui n'a pas besoin d'être incarnée, etc., bon, ce qui donne ses problèmes. Sur la question de l'histoire des années 70, moi je prends les textes pour ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, c'est-à-dire que c'est vrai que ce que j'ai cité, c'est la reconnaissance du passage d'un idéal révolutionnaire à un terrorisme coupé d'eux, etc. Et donc, c'est cette espèce d'autocritique, hein, qui explique que ce mépris du peuple, hein, auquel on arrive. Et la question de la social-démocratie, je ne l'aborde pas frontalement, je l'aborde en citant en faisant cette autre citation très longue là sur les albums de famille, hein, et le fait que on a une mémoire trouée. Bon. Ouais, mais comme ça, j'ai avoué que j'étais social-démocrate, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire, je lis le texte, et je considère que Ingrid Fogel est aussi un personnage de fiction. Donc, que ce qu'elle dit de la social-démocratie, ça la regarde. Et que c'est pour ça qu'elle en est là où elle en est, c'est-à-dire à savoir si elle va travailler pour son exfiltration avec quelqu'un des services secrets. Non, j'ai pas insisté sur la police, parce que d'abord il en était question hier, mais quand je dis que le pouvoir a des organes, bon, c'est ce que la police en est le plus visible.
Organe est particulièrement bien choisi.
Ben oui,
c'est comme ça qu'on
appelait. Voilà, oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est pour ça que je l'ai choisi.
Pierre Ouellette, oui.
Oui, merci pour cette communication que j'ai vraiment aimée. Vous êtes parti donc de deux modèles de littérature, la révolution et la terreur pour Blanchot, la guerre et la torture pour ça, et on a glissé après vers l'œuvre de Volodine où c'est l'échec de la révolution et je dirais peut-être une sorte de guerre permanente qui s'ensuit, hein, pour résister à l'effacement de l'idée révolutionnaire malgré l'échec. Donc quelque chose qui fait un peu la synthèse des deux premiers modèles. Mais il me semble que dans les trois cas, Blanchot, Sartre, Volodine, il s'agit plutôt de montrer que finalement la littérature, l'écriture, a à voir davantage peut-être avec quelque chose qui est de l'ordre de l'événement, c'est-à-dire on a parlé de Kairos hier, d'APAC, c'est-à-dire quelque chose qui surgit, hein, dans l'histoire factuelle, comme une sorte de hors-temps finalement, hein, une accélération vive de l'histoire pour ce qui est de la révolution, ou au contraire une déflagration totale pour ce qui est de son échec, et chaque fois quelque chose comme une rupture dans l'ordre du temps, on dirait de fracture dans le factuel pour faire surgir de l'événementiel. Donc c'est une autre modalité de l'expérience temporelle qui est chaque fois en jeu, qu'il s'agisse de la révolution, de la guerre, ou de cette espèce de résistance infinie, hein, de la part des anciens révolutionnaires, donc quelque chose qui modifie notre rapport au temps et donc à l'historicité, hein, il y a au cumul des faits qui nous amènent progressivement vers des états de plus en plus organisés, etc. Là, il y a quelque chose comme une forme de, comment j'appellerais ça, plutôt d'entropie, hein, l'histoire, l'historicité comme on la connaît, elle est mégantropique, c'est-à-dire qu'elle se... C'est l'organisation à partir du bruit, comme on disait autrefois. Donc elle se complexifie en ordonnant ça, ce qui se passe comme ça par hasard, en l'organisant, plus ni moins. Et là, non. Dans les trois métaphores que vous utilisez pour décrire l'écriture, il y a quelque chose comme du chaos, du bruit non organisable, de l'événementiel pur, qui ne s'enchaîne pas en fait, qu'on ne peut pas vraiment historiciser. Moi, j'appelle ça du hors-temps, hein, du hors-temps qui surgit dans la temporalité historique. Et chez Antoine Volodine, notamment, ça se passe sous la modalité de cette nostalgie d'un futur non advenu. C'est une expression un peu paradoxale, mais ça décrit bien cette difficulté qu'on a aujourd'hui avec le concept d'histoire. Je ne parle pas de l'historicité à laquelle nous sommes tous confrontés, mais de la conception de l'histoire, hein, depuis Ptolémée, hein, l'idée d'une historia qui est un rapport qui organise les faits du passé, hein, une relation. Hein. Alors, dans le cas de Blanchot, comme dans le cas de Sartre et dans le cas de Volodine, je pense que c'est l'échec de cette relation organisatrice des faits, ou cette reconfiguration du corps du cœur, qui est manifeste, hein, qui est visible. Donc l'impossibilité aujourd'hui de traiter notre expérience temporelle uniquement avec notre concept d'histoire. Hein, quelque chose qui surgit. Bon, on a beaucoup réfléchi, bien sûr, depuis une trentaine d'années sur la notion d'événement par rapport à celle de fait. Et il me semble que ces trois métaphores, hein, de l'écriture participent de cette interrogation. Et l'œuvre d'Antoine, notamment, nous permet d'aller encore plus loin, hein, avec cette espèce de suspension du temps. On est au passé, on intervient aussi dans l'avenir, on est dans une espèce d'impossible présent. On n'est plus en tout cas dans le factuel, on est dans l'événementiel et du surgissant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça.
Non, mais merci de vos réflexions. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas parlé d'événements, je n'ai pas parlé de Kairos, parce que, bon, le Kairos, en général, c'est le moment propice pour parler. Le Kairos est toujours sanctionné par la réussite. Hein? Bon, là, la prise de parole n'est pas sanctionnée par la réussite. Bon, c'est pour ça que je pense pas, je parle pas en termes de Kairos. Donc,
j'ai entendu Kairos ici plutôt dans le sens que c'est un concours de circonstances.
D'accord.
Qui sont réunies comme un moment unique. C'est-à-dire que, d'accord. Hein, c'est le fameux « il était une fois ».
D'accord.
Ça ne peut pas se reproduire. Hein. Chacun, la révolution est chaque fois unique, d'une certaine manière. Hein. Et, bon, qu'elle soit réussie ou pas, peu importe, mais il y a un concours de circonstances, une occasion qui se présente, et il y a un éclatement qui est souvent imprévisible.
Oui, mais
qu'on peut pas, qui ne s'annonce pas vraiment et qui nous surprend.
D'accord, mais alors je pense que c'est là peut-être où on je suis à la fois d'accord avec vous et peut-être on diffère par rapport à votre intervention d'hier, sur la question de l'occasion. C'est-à-dire, moi, je préfère insister. Vous avez dit que, hier, je me souviens, pragmatique, comme on disait autrefois. Bon, pour moi, c'est toujours du présent. C'est-à-dire que dans cette littérature, c'est bien d'efficacité et d'efficience dont il s'agit. Donc, au fond, c'est plus par ce biais-là. Ça, je faisais référence aussi au performatif, la volonté de performatif des années 30, c'est-à-dire d'aller au-delà de la littérature, hein, en tant que bon, domaine formel. C'est plus par rapport à ça que moi je me guide que par rapport effectivement à la notion d'événement qui est plus directement pour moi. Une interrogation sur les questions de l'histoire, ce qui fait trou dans l'histoire. Voilà.
Alors, Anne Le Roche, d'abord, excusez-moi.
D'abord, merci pour ton intervention. Et, je pense que un des plaisirs qu'on a à t'écouter, c'est que nous, vos modignats patentés, ça nous fait relire sous un autre jour des textes que nous croyons connaître et que peut-être tu nous présentes sous une lumière autre. Ça, déjà, je trouve que c'est très intéressant. Alors, moi, je dirais comme Pierre, j'ai beaucoup apprécié que tu inscrives ta réflexion par rapport à Sartre et à Blanchot, ou à Blanchot et à Sartre. Hein, parce qu'effectivement, ça donne un champ et une perspective qui n'était pas présente jusqu'ici, et c'est une très bonne idée. Cela dit, et là où je me séparerai un peu de ce que vient de dire Pierre, c'est qu'il me semble que nous avons affaire à deux régimes d'écriture complètement différents. Sartre et Blanchot d'un côté et Volodine de l'autre. Je veux dire que Sartre comme Blanchot, en dépit de tout ce qui les sépare, leur point commun, c'est que, en tant qu'écrivains, ils sont des politiques. Des politiques. Et aussi des hommes qui réagissent par rapport à un événement historique, soit qui leur est contemporain, soit qui est antérieur, hein, dans les deux cas. Alors, il me semble que dans le cas de Volodine, et là il faut faire très attention, parce qu'on a affaire à un régime fictionnel, même si ce régime fictionnel joue ou utilise des objets qui ont évidemment des références dans la réalité. Ce que rappelait Frédéric tout à l'heure quand il parlait du Portugal ou d'Allemagne ou autre. Et c'est évident que ça a des échos pour chacun de nous, pour tout un chacun, dans nos histoires personnelles, dans ce qui nous a touchés ou émus, dans ce que représente pour nous le mot littérature et dans ce que représente au moins pour certains d'entre nous le mot révolution. Bon, donc il me semble qu'il faut faire très attention à ne pas confondre les régimes. Hein. Et par ailleurs, Volodine s'est expliqué plusieurs fois dans des entretiens ou dans des interviews en disant que quelque chose comme, enfin, il m'excusera si je cite pas sa verbatim, mais il dit qu'il respecte trop la révolution pour ne pas la distinguer très nettement de la littérature. Et il dit aussi qu'on chercherait en vain dans son œuvre des mots d'ordre d'action. Ils y sont peut-être, mais portés par des personnages. Et de cette façon-là, c'était très intéressant que cite à la fois le discours de Varvalia Lobenko et le discours d'Ingrid Fogel, qui évidemment ne sont pas du tout du même ordre. Parce que d'un côté, Varvalia Lobenko, c'est un appel aux armes, même si c'est un appel aux armes complètement dérisoire et rendu dérisoire par son régime d'énonciation. Et à côté de ça, chez Ingrid Fogel, ce n'est pas du tout un appel aux armes, puisque, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a chez elle le profond mépris du peuple et du prolétariat au nom duquel, soi-disant, ils ont pris les armes. Et tout ce qu'elle dit de la décomposition, de la porcherie occidentale et tout ça, et ça pour le coup, petite parenthèse, c'est historique. C'est exactement la position de la haute armée fracturée. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, bon, on ne va pas ouvrir le débat sur la social-démocratie, ni sur les avant-gardes. Mais enfin, c'est très intéressant. Il y a évidemment des parallèles ou des références avec le référent. Mais je crois qu'il faut bien faire attention, faire passer le rasoir logique entre les deux niveaux. Ce que tu fais, bien entendu, enfin, voilà.
Merci, oui, non,
Merci pour Cicéron, je savais que ça me rappelait des souvenirs, mais je ne savais plus exactement lequel.
Donc maintenant, les choses sont bien enfoncées dans la tête.
Déjà, hier soir, il y a eu les cloches trotskistes.
Non, mais je ne voudrais pas avoir donné l'impression, effectivement, de... Bon, évidemment, il y a deux régimes d'écriture différents, et donc je ne voudrais pas avoir donné l'impression de... qu'on est dans une continuité historique, linéaire, plate, etc. On est dans un traitement fictionnel de l'histoire, qui est proprement de l'ordre du contemporain, qui est une lecture littéraire de l'histoire selon la fiction. Et j'espère ne pas avoir donné l'impression que je prenais les textes pour des mots d'ordre. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de... Je ne trouve pas si ridicule ce discours révolutionnaire.
C'est une grande tentation, bien sûr. Et le discours de Varvalia Lobenko, moi, je l'achète d'un bout à l'autre, voilà. À 100%. Voilà.
Non, mais c'est bon, c'est pour ça aussi que je terminais sur la question de l'interrogatoire comme une des matrices de la fiction.
Oui, Gaspard, tu vas. Oh, pardon, non, excuse-moi. Oui, Claire Callan, pardon, excusez-moi.
J'étais vraiment intéressée.
Votre nom. Claire Callan.
Et donc, oui, je voudrais juste rebondir sur la question, effectivement, de la fiction et la difficulté aussi par rapport à votre sujet, parce que la fiction dont vous parlez, c'est la dystopie, ou une littérature aux accents dystopiques. Donc, c'est une littérature particulière qui nous fait réagir violemment par sa prise avec l'histoire. Donc, évidemment, c'est difficile à traiter. Et vous avez évoqué donc les ressemblances, les dissemblances. Moi, en vous écoutant, je pensais beaucoup à La Servante écarlate. Je sais pas, c'est ce texte qui m'est venu en tête en vous écoutant. Et je me disais... Puisqu'on est dans les ressemblances et les dissemblances, il me semble que l'une des spécificités de Volodine, par exemple, par rapport à Atwood ou à d'autres textes dystopiques, c'est d'y mêler cette notion d'absurde. Parce que la dystopie est quand même un genre, entre guillemets, qui se veut sérieux dans son ensemble. Elle pose des questions, d'où l'intérêt de l'interrogatoire, parce qu'il y a toujours cette question du dialogue. On est là pour penser l'humain dans le groupe. Bon, je ne vais pas développer la dystopie ici. Et ça finit toujours, on espère en tout cas, par une lueur d'espoir. Et chez Antoine Volodine, l'absurde vient de gréver tout ça, me semble-t-il. Je ne sais pas si ça vous fait réagir ou...
Non, mais merci. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis, comme Anne Roche l'a dit, je suis un lecteur de l'œuvre, mais un néo-critique. Donc, je pense que la question de l'absurde, en fait, c'est... La question de l'absurde, pour moi, c'est... Mais je ne sais pas si c'est vrai, parce que, encore une fois, je la relierais plutôt à la question du grotesque dans la littérature russe, c'est-à-dire au texte de Meyerhold, bon, par exemple, hein, des choses comme ça. Ce n'est pas l'absurde tel que...
Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que cette notion de décalage, on pourra effectivement réfléchir sur le mot, c'est quelque chose que vous souhaitez prendre en compte ou plutôt vous arrêter à la fiction réalité dans ce qu'elle a de proche?
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question.
Est-ce que la dimension donc, fictionnelle, ouais. Tout ce qui est décalage par rapport à la réalité, est quelque chose qui vous intéresse dans votre travail?
Oui.
Ou plutôt, comme vous disiez par exemple, vous parlez du pouvoir, donc est une machine, amnésie, etc. Oui. Donc, réfléchir vraiment le pouvoir, la réalité, vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Ah, oui. Non, mais c'est-à-dire que, bon, d'une part, la question de la fiction, c'est aussi la question de l'immersion mimétique, que ce soit dystopique ou pas. Donc, de toute façon, en tant que lecteur, on est pris. Il y a des pièges à lecteur, et donc on se laisse prendre très volontiers par ces pièges. Bon. Et par ailleurs, la question du pouvoir, là, c'est la question du pouvoir telle que la fiction la traite. C'est-à-dire quand je... Parce que, bon, là, ça aurait été un développement trop long, mais la citation sur... la citation de... qui considère donc, comme dirait Marc-Ange Nault, la démocratie, c'est le mal, bon. Donc, qui considère la démocratie comme démocratie formelle, enfin, dans la tradition du... marxiste. Ça, moi, je considère que c'est un personnage fictionnel qui parle et donc qui c'est assez logique que ce personnage. Il y a une logique du personnage, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le même personnage qui met en cause la démocratie et qui déclare son mépris du peuple. Dès que c'est un personnage très bien constitué, qui est logique avec lui-même. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui, Gaspard Thirin.
Oui, moi j'ai une question qui peut vous être adressée comme au reste de la salle. On a beaucoup parlé à plusieurs reprises dans le premier aujourd'hui d'échec de la révolution chevelue, mais à mon avis on n'a pas assez parlé, je ne sais pas si c'est un peu grossier comme entrée en matière, mais d'une révolution comme une sorte de base continue, d'une permanence. Donc d'une sorte d'anti-kairos, ou le contraire sur quoi vous achetiez, d'une organisation finalement, ce bruit, d'un ostinato, comme Van Roche le disait hier. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de parce que ce n'est pas un désaveu a posteriori de l'idée de révolution comme signe de la modernité, finalement.
Je ne sais pas. Mais je veux dire, bon, on n'est pas obligé d'être les esclaves cognitifs des Lumières non plus. Donc. Non, des aveux de l'idée de révolution, non. Je suis plus d'accord quand vous dites anti-kairos, parce que là, ça s'inscrit dans un temps long et dans une mémoire. Bon, c'est là où, effectivement, la question de la base continue joue, de la mémoire collective dont il était question hier. les désaveux de l'idée de révolution comme signe de la modernité, mais je pense que c'est pas si c'est aux critiques de le dire, j'en sais rien, je ne sais pas.
Oui, alors
Jean-Pierre Vidal,
oui.
Intervenir en la défense du Kairos.
Moi, j'aime beaucoup le Kairos.
Dans la pensée grecque, le Kairos est une forme de permanence, c'est une reconduction. Parce que le Kairos, c'est l'événement au bon moment, et la plupart du temps, cet événement, c'est le surgissement d'un individu par les circonstances. Et c'est un événement qui, à cause de cette fonction heuristique, doit être reconduit constamment, par une négociation constante. Toute la pensée grecque est la torme. Il faut constamment retrouver individuellement et collectivement le kairos.
Non, mais
donc c'est une forme de base discontinue.
Non mais je ne voudrais pas qu'il y ait erreur sur la personne. J'aime beaucoup le kairos. Mais il se trouve que le kairos, pour moi, c'est effectivement le moment opportun. Bon, et que, par exemple, la notion de kairos, dans le livre sur Céline, sur les pamphlets, c'est très important. C'est-à-dire que le pamphlétaire est celui qui sait intervenir et prendre la parole au moment opportun. Bon. Et donc c'est vrai que comme j'ai vraiment ça, comme j'ai beaucoup utilisé la notion de kairos à ce propos-là, j'ai pas l'agilité intellectuelle pour déplacer la notion de kairos par rapport à des textes qui ne sont pas des textes du même acabit.
Oui, Antonin Vizard.
Et Pierre. Une question à propos de l'interrogatoire. Qui fait écho, mais c'est pas très bien connu parce que je ne connais pas le texte de Blanchot dont vous parlez, la question de la torture en fait. À propos de l'interrogatoire, dans le fond, l'interrogatoire sert précisément, alors peut-être justement parce que vous l'avez dit, mais sert à faire écrire l'histoire des vainqueurs par les vaincus, on les fait avouer quelque chose qui est. Une fiction, mais qui est l'histoire des vainqueurs. On les fait participer à la coécriture de l'histoire des vainqueurs. Il me semble que chez Volodin, c'est précisément les vaincus qui parlent tout le temps. C'est l'histoire des vaincus qui est présentée. Il me semble que, en ce sens-là, c'est justement ce sauvetage, le sauvetage benjaminien qui est mobilisé. Mais voilà, alors quel type. Comment on pose cet interrogatoire-là, qui est, me semble-t-il, précisément pas celui qui consiste à. On essaie de les faire avouer, ils produisent peut-être de la fiction, ils inventent quelque chose, on peut se demander si c'est d'ailleurs leur histoire, ou si c'est, en tout cas c'est la fiction des vaincus, il me semble.
Oui, la torture, c'est pas Blanchot, hein, c'est.
C'est Sartre, oui.
C'est Sartre. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que l'interrogatoire dans l'histoire réelle sert à faire écrire l'histoire des vainqueurs par les vaincus. Enfin, il faut vraiment produire des témoignages, quoi. Il faut qu'ils soient coupables. Mais là, il me semble que on est dans autre chose. C'est-à-dire, c'est cette idée que la littérature est réponse à une question. Donc, les vaincus. Ils parlent, mais ils répondent. Enfin, parfois, ils délirent, mais ils répondent. Ils répondent, y compris à leurs propres questions. Mais c'est la littérature comme réponse à une question, comme réponse à un problème. C'est là où l'interrogatoire est une forme rhétorique à la fois extrêmement ciblée et puis une manière de poser la littérature en tant que discours, me semble-t-il.
Pierre avait levé une petite main.
Effectivement, pour moi, l'originalité et la force de l'œuvre d'Antoine Volodine
par rapport aux œuvres de la modernité qu'on a citées, que ce soit celle de Blanchot ou de Sartre, précédant de faire de l'exception une norme presque, c'est-à-dire de cette espèce d'état exceptionnel que normalement sont la révolution ou la guerre, quelque chose qui est effectivement permanent, qui est une espèce d'horizon perpétuel pour les protagonistes, qu'ils soient personnages, narrateurs ou même auteurs. Donc il y a là effectivement une sorte de nouvelle modalité temporelle qu'il faudrait pouvoir décrire, qui est difficile peut-être à se représenter, hein, l'exceptionnel au quotidien, c'est le surgissement permanent de l'événementiel. Hein, c'est notre défi, je pense, d'essayer de trouver une modélisation de ça.
Je suis tout à fait d'accord avec vous sur les deux points, sur la description que vous donnez, puis sur la difficulté à en rendre compte. Parce que je pense pas que quelqu'un comme Agamben permette de rendre compte de ce passage de l'exception à la norme. Je veux dire, c'est trop heideggerien révisionniste pour moi. C'est...
On clôt peut-être la séance, la première partie de la séance. Est-ce qu'on s'accorde une pause d'un quart d'heure ?
Merci beaucoup.
Un quart d'heure. Merci à Philippe.
Merci beaucoup.